Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Comme en d'autres domaines, on a longtemps, et aujourd'hui encore, négligé le rôle joué par les femmes en matière de renseignement. Certes minoritaires au sein des différents services, elles participèrent pourtant, à l'Est comme à l'Ouest, aux guerres secrètes du XXe siècle. Si elles furent largement employées comme petites mains au travail de bénédictins des services de chiffrement et de déchiffrement, elles furent aussi des agents de terrain engagés, au même titre que les hommes, dans des actions souvent dangereuses que certaines payèrent de leur vie ou de longues années d'emprisonnement. En 1997, le cabinet des curiosités s'intéressait à ces femmes des combats de l'ombre. Au micro de Jacques Munier, les journalistes Genoveva Etienne et Claude Moniquet, tous deux spécialistes de l'histoire du renseignement, évoquaient des grandes figures féminines de l'espionnage. Héroïques comme Edith Cavell ou Louise de Bettigny, plus romanesques mais troubles comme Mata Hari, ou franchement sombres comme la célèbre Mademoiselle Docteur. Ils évoquaient aussi certaines de celles des services de Marcus Wolf en RDA qui furent des sacrifiés de la guerre froide. Le cabinet des curiosités, les aventures de l'espionnage, espionnes de charme et femmes de choc.
Mathésius a décidé de m'envoyer ici pour diriger les opérations.
Eh ben mes compliments. Pour que Mathésius donne à une femme en ce moment ce poste de Salonique, il faut que ce soit une femme extraordinaire. En somme, vous êtes une nouvelle Mademoiselle Docteur.
Mon matricule est EI4G.
Comment c'est vous? Mais asseyez-vous, je vous en prie.
Merci. J'aime mieux rester debout.
Ah, ça c'est fantastique. Eh bien, je ne vous voyais pas du tout comme ça. Je croyais que vous aviez de grosses lunettes, les cheveux tirés.
En Belgique, oui. Vous ne changez jamais d'aspect?
Oui, c'est vrai. Oui, c'est idiot, mais pour une femme, on ne pense jamais. Ah, mais Simonis aurait dû me prévenir.
C'est sans importance.
Les aventures de l'espionnage. Aujourd'hui, espionne de charme et femme de choc. De la patriote idéalisée à la sulfureuse séductrice, d'Edith Cavell à Mademoiselle Docteur ou Mata Hari, l'histoire de l'espionnage, sa légende dorée comme ses mythes noirs, doivent beaucoup aux femmes. On disait jadis qu'avec les prêtres, les femmes faisaient d'excellents espions, parce qu'elles savaient tirer les confidences et, comme disait Beria, le numéro 1 du NKVD de Staline, les grands hommes sont si petits au lit. Dans ce chapitre où se mêlent à l'héroïsme le fantasme et la misogynie, s'est inscrite une version clandestine de la lutte des femmes.
Il faut savoir par exemple que le FBI n'a recruté des femmes qu'à partir de 1972, ce qui montre tout de même la misogynie de ce milieu.
Genoveva Etienne.
La situation est tout à fait différente en Grande-Bretagne, où déjà l'image de l'espion n'est pas la même. L'espion est considéré comme quelqu'un de tout à fait respectable, qui fait un métier tout à fait utile. Et aujourd'hui, dans les services de renseignement anglais, un quart des agents sont des agentes. Donc aujourd'hui, la femme occupe un rôle beaucoup plus important dans ce pays. Je pense qu'aujourd'hui en France encore, l'image d'une femme travaillant dans le renseignement n'est pas tout à fait encore entrée dans l'esprit des gens.
Alors, si les Anglais, les services anglais ouvrent leurs portes aux femmes, on peut dire aussi qu'ils ne se sont pas toujours bien comportés à leur égard. Et on pense évidemment au cas d'Edith Cavell, sur laquelle plane un mystère.
Oui, on pense que... Bon, Edith Cavell, pour rappeler en quelques lignes, donc était une infirmière anglaise installée à Bruxelles où elle travaillait dans un centre médical. Et Edith Cavell a hébergé dans la clinique où elle travaillait des blessés et elle travaillait en même temps pour les services anglais. Elle prenait énormément de risques, c'était une femme très courageuse. Et le jour où elle a été dénoncée par un petit escroc français qui finalement, en échange de sa libération, avait accepté de travailler pour les Allemands. Lorsqu'elle a été dénoncée, d'abord c'est dramatique parce que on lui a fait croire que tout son réseau avait été arrêté et Edith Cavell a dénoncé finalement tous ses camarades. Et lorsqu'elle a été condamnée à mort... finalement, les Anglais auraient pu intervenir. Ils ne l'ont pas fait pour une raison très simple, c'est qu'ils voulaient inciter les volontaires à partir au front, la conscription n'étant pas obligatoire. Donc ils ont volontairement sacrifié Dick Cavell. Il faut dire que son exécution a provoqué une indignation au niveau mondial. On peut dire aussi que c'est grâce, si on peut le dire comme ça, grâce à l'exécution d'Edith Cavell que Louise de Bétigny n'a pas été fusillée. Parce que l'indignation au niveau mondial a fait qu'on n'a pas osé fusiller Louise de Bétigny, qui malheureusement est quand même morte de maladie, de tuberculose dans les prisons allemandes. C'était aussi une sacrée personnalité. Il faut savoir que c'était une aristocrate du Nord qui, jouant au golf et prenant le thé avec des dames comme il faut, et qui n'a pas hésité finalement à travailler. Je trouve que sa personnalité ressemble un petit peu à celle de Edith Cavell. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui, par patriotisme, n'ont jamais hésité à prendre des risques. Je pense qu'elles savaient qu'elles risquaient d'être dénoncées, arrêtées. Elles savaient ce qu'elles risquaient.
Il faut envoyer quelqu'un là-bas.
Nos meilleurs agents sont occupés.
Et moi, je suis libre. J'irai à Salonique. Quand voulez-vous que je m'en aille? Qu'est-ce qu'il y a, colonel?
Maintenant que vous avez accepté, j'hésite à vous envoyer dans ce guépier.
Dans ce métier, nous sommes tous des morts en sursis.
Je voudrais prolonger le vôtre.
Merci. Mais le service avant tout.
Voici un passeport américain. Vous êtes Miss Lillian Stanley, envoyée spéciale du New York Star. Aussitôt arrivée, vous vous rendrez dans un cabaret dont je vais vous donner l'adresse. Le patron est à nous.
Quel est le mot?
Le mot est en deux parties. La question, à quoi pensez-vous?
Et la réponse?
À la grande aventure.
À la grande aventure.
Tout le monde a ses petits défauts. J'en ai ni peu ni trop. Il faut ce qu'il faut. Mais j'ai l'esprit mal tourné et sans cesse entraîné à tout deviner. À quoi pensez-vous, voyons monsieur?
Qui était au juste Fraulein Doctor, cette mystérieuse Allemande qui, selon des rescapés, s'évite et séduit, interroge et torture des prisonniers? On signale en effet qu'une dangereuse espionne de 26 à 28 ans, blonde et mince, assez jolie, et dont on ignore l'identité, travaille en liaison directe avec le colonel Nikolai, chef des services allemands. Trois femmes au moins ont incarné Mademoiselle Docteur. Anne-Marie Lesser, celle du film de Pabst, la mystérieuse de Berne, et Elisabeth Schragmüller, docteur en philosophie et chargée du recrutement et de la formation des agents. Séduction et dressage, le cocktail se boit frappé. Quant à Mata Hari, victime de sa sulfureuse réputation, elle sera condamnée sur la seule foi d'une interception qui révèle son nom de code. Recrutée par les services allemands dès le début de la guerre, elle sera retournée par les Français et s'adonne dès lors au jeu dangereux de l'agent double. Arrêtée puis condamnée, elle incarne brillamment la sorcière dans le climat ambiant d'espionnite hystérique et le retour de refoulés chasses aux sorcières.
Mata Hari, bon, c'est un personnage tout à fait sympathique. Moi, personnellement, je la trouve pas. Je trouve qu'elle n'est pas choquante. Parce que Mata Hari, finalement, bon, c'était un personnage mythomane, danseuse, une femme qui a osé danser nue à une époque où c'était quand même pas très courant. Et Mata Hari avait un problème, c'est qu'elle avait la fascination des officiers. Donc un officier pouvait lui demander n'importe quoi, elle acceptait dans la mesure où c'était un officier qui lui demandait. Je pense que Mata Hari ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qu'elle faisait. Elle le faisait pour l'argent, ça c'est évident. Elle ne faisait pas pour. Elle a travaillé pour l'Allemagne, elle a été recrutée par l'Allemagne, mais elle a été recrutée aussi par les Français. Donc c'était finalement une femme qui. Elle aurait pu être recrutée par n'importe quel autre service. Elle le faisait pour l'argent, pour pouvoir se déplacer en temps de guerre, pour pouvoir obtenir des laissez-passer, traverser les frontières, pour pouvoir donner ses spectacles. Je pense aussi que. Pourquoi a-t-elle été recrutée? Parce que c'est une femme qui bougeait beaucoup, qui voyageait beaucoup. Donc, elle pouvait effectivement être intéressante. Elle rencontrait énormément de gens. C'était une femme une grande séductrice, donc elle avait énormément d'amants. Elle avait des amants français comme des amants allemands. Ça ne la dérangeait absolument pas. Le problème, c'est que l'histoire se base sur Matahari pour raconter l'histoire de l'espionnage féminin. Et ça, c'est très dommage. Il existe une littérature concernant Matahari qui est époustouflante. Et d'un livre à l'autre, l'histoire change. Ce n'est pas la même.
Et ça, c'est un petit peu de la faute de Matahari aussi, parce qu'il y avait chez elle, on parle du jeu avec l'identité concernant les espions et les espionnes également, elle, il y avait un véritable vertige de l'identité, puisqu'elle a plusieurs fois inventé sa propre naissance, et puis elle a elle-même nourri la légende.
Elle l'a effectivement... elle se présentait comme la fille d'un javanais, ayant appris les danses hindoues. Tout le monde croyait à ces légendes, puisqu'elle n'avait jamais appris à danser. Elle ne savait pas danser. Le jour où elle est montée pour la première fois sur scène, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle s'est déshabillée, puis ça marchait, oui, effectivement. Et tout Paris se déplaçait pour venir la voir parce qu'elle était nue, non pas parce qu'elle avait du talent. Matahari a complètement inventé sa vie. Elle donnait des interviews à la presse. D'un jour à l'autre, elle changeait d'identité, elle changeait de nom, elle changeait son âge, elle changeait ses origines. Et il a fallu un certain temps pour savoir qu'elle était d'origine hollandaise, que son père était un chapelier, qu'elle avait été mariée, qu'elle avait été une femme battue, qu'elle avait abandonné son enfant. Bon, il y avait toute la vérité sur Matahari. Donc, elle se plaisait dans ce double rôle, finalement. Elle adorait brouiller les pistes. Et quelque part, ça lui a joué des mauvais tours, puisque ça faisait partie de sa vie de mentir, d'utiliser les gens. Donc je crois ça faisait partie de sa personnalité, la manière dont elle a agi en tant qu'espionne, entre guillemets, parce qu'elle ne l'a pas fait volontairement, elle n'a pas fait en se rendant compte. D'ailleurs, quand elle est arrêtée, qu'elle est en prison, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi elle est arrêtée. Elle se demande, mais oui, j'ai fréquenté des Allemands. Et je crois qu'elle a été manipulée, elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait.
Oui, c'était plutôt une espionne mondaine.
Et quand Matahari a été arrêtée, son arrestation est restée cachée pendant un certain temps, puisque c'était quand même une grande personnalité du monde du spectacle, et ça pouvait paraître extrêmement choquant. Mais le jour où elle a été présentée comme une espionne, je crois que toute la population s'est réjouie d'avoir un traître. C'était une manière c'était un bouc émissaire, finalement.
Parce que son dossier au procès était quand même assez mince.
Il n'y avait strictement rien. Je pense que ce qu'on sait aujourd'hui sur Matahari, ce sont les historiens qui les ont découverts beaucoup plus tard. Mais à l'époque de son procès, elle ne méritait absolument pas d'être fusillée. La mort de Matahari est scandaleuse, puisque en fait elle n'a été c'était une manière d'exorciser autre chose, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement d'espionnite en France, et le fait qu'on puisse mettre la main sur une étrangère en plus. Une étrangère qui, à mon avis, en plus, n'était pas appréciée de toute la population, étant donné qu'elle était scandaleuse. Et je crois que ça arrangeait tout le monde.
Matahari ne manquait pas d'allure. De son procès, je ne soulèverai aucun voile, car je n'en ai pas le droit. Et je me borne à observer que trop de gens en ont parlé qui n'en connaissaient pas le premier mot.
Procureur Bouchardon, le juge de Matahari.
Était-elle jolie? Sans aucun doute à s'en rapporter au portrait de jeunesse qui ornait un passeport où elle se donnait 41 ans. Mais la femme qui me fut amenée un matin de février 1917 dans mon cabinet de rapporteur avait subi du temps bien des affronts. Les yeux gros et striés de filaments rouges, le nez presque camard, la bouche pendue jusqu'aux oreilles, les lèvres formant bourrelet, les dents larges comme des palettes, les cheveux grisonnants aux tempes, là où la teinture ne les défendait pas longtemps, Elle ne ressemblait guère, sous le petit jour grisâtre qui tombait de la cour du dépôt, à la ballerine fameuse qui avait traîné à travers l'Europe derrière son char une foule d'adorateurs. Mais elle avait gardé de l'harmonie dans les lignes, de la sveltesse et un déhanchement non dépourvu de grâce. On eût dit les ondulations d'une tigresse dans la jungle. Pendant les longs interrogatoires que je lui fis subir, elle était dévorée d'une fièvre brûlante. Elle buvait de l'eau sans relâche, dans le car en fer blanc dans les hommes de garde. Ah, les palaces étaient loin et les verres en cristal de bohème. Un jour, exaspérée de la précision de mes questions, elle me lança dans les jambes le contenu de son gobelet. Je lui fis observer froidement que j'attendais toujours sa réponse. Quand le 15 octobre 1917, on vint procéder à son réveil, le coup parut l'étourdir, mais qu'elle ressemblait peu alors à la Matahari des jours heureux. C'était sur un grabat une très vieille femme que les rides marquaient incroyablement. Elle poussa un profond soupir et plusieurs fois se prit la tête entre les mains comme si elle était trop lourde à porter. La reine déchue revêtit la toilette qu'elle portait au temps de son arrestation, toilette devenue bien défraîchie, s'empanacha d'un grand chapeau, s'enveloppa d'un long voile clair et passa des gants à crispin. À partir de ce moment, elle ne marcha plus, elle se mit à courir. Elle descendit deux marches à la fois les vieux escaliers vermoulus de Saint-Lazare, pendant que les rats qui ont élu domicile dans cette maison lépreuse s'enfuyaient de toutes parts. On avait peine à la suivre. Dans la cour, store baissée, ampoule électrique allumée, l'attendait une auto où elle s'élança sautillante. À Vincennes, tout près de la mort, ses attitudes demeurèrent étudiées. Svelte et minaudière, telle elle apparut à sa descente de voiture, qu'escortaient des dragons sabre au clair. Déjà, elle était au poteau, et pendant que les soldats, des zouaves, l'ajustaient, elle agita la main dans un geste d'adieu vers le pasteur, vers la supérieure de Saint-Lazare, vers son vieil avocat qui jusqu'au bout lui était demeuré fidèle, elle avait à l'heure de son réveil indéfiniment embrassé. Cette attitude théâtrale intimida les hommes du peloton. Ils tirèrent si mal que 3 balles seulement sur 12 atteignirent la condamnée, mais l'une d'elles traversa le cœur et la foudroya, Matahari avait vécu.
Passé maître dans l'art de la manipulation affective pendant la guerre froide, les services secrets d'Allemagne de l'Est sont dominés par la figure tutélaire et inquiétante de Marcus Wolf.
Marcus Wolf est quelqu'un de fascinant, en même temps quelqu'un de dangereux, parce qu'il a un peu la fascination du serpent, il faut bien le dire. Marcus Wolf est l'homme qui, à partir de la fin des années 40, va à Berlin-Est créer de toutes pièces les services secrets de l'Allemagne de l'Est, le HVA, qui va remporter des succès invraisemblables.
Claude Moniquet.
C'est le HVA, entre autres, qui sera à l'origine de cette épidémie de ce qu'on appelait les affaires des secrétaires à l'OTAN, où dans les années 70 et 80, toute une série de secrétaires, d'officiers supérieurs, des états-majors interalliés ou du secrétariat de l'OTAN ont été séduites par des agents de l'Allemagne de l'Est qui se servaient d'elles pour avoir accès aux documents secrets de la défense occidentale et puis qui les laissaient tomber. Ces affaires se sont d'ailleurs conclues par des procès, par des tragédies, par des suicides. Derrière tout cela, il y avait un homme, cet homme c'était Marcus Wolf. Marcus Wolf est un juif communiste allemand. Dans l'ordre, il est allemand, ses parents sont juifs, il quitte enfant l'Allemagne à cause des persécutions hitlériennes et il va vivre en Russie. En vivant en Russie, il va en fait, enfin en Union soviétique donc. En Union soviétique, il va développer un mélange de fascination et certainement d'immenses reconnaissances pour l'Union soviétique qui en fait a sauvé sa famille en l'accueillant. Il est double national, il va devenir soviétique lui-même, il parle parfaitement russe, et quand les Allemands, quand l'Allemagne est occupée, l'Allemagne orientale en tout cas est occupée par les soviétiques en 1945, il rentre chez lui dans les fourgons de l'armée soviétique. Et on va donc lui confier la mise sur pied, la création, puis la gestion des services secrets est-allemands. En fait, Marcus Wolf, qu'on surnomme, que les Russes appellent Misha, et qu'on continue à appeler Misha Wolf très souvent, est tellement symbolique de ce qu'a été le renseignement soviétique et du bloc oriental, qu'on dit qu'il a en tout cas inspiré la figure de Karla. Et Karla est l'espion emblématique qui va traverser toute l'œuvre de John le Carré. C'est l'homme qui, derrière les apparences, derrière les agents soviétiques auxquels se heurtent, en tout cas dans la première phase de son œuvre, les hommes mis en scène par John le Carré, est le chef d'orchestre clandestin. Pendant toute la guerre froide, Mischa Wolf a eu cette image de chef d'orchestre clandestin. Ce n'était pas totalement injustifié, puisque, entre autres, son plus grand succès est probablement le fait d'avoir implanté Günther Guillaume comme conseiller très proche dans l'entourage direct de Willy Brandt. La défection, plutôt la découverte de cette affaire d'espionnage, ayant d'ailleurs entraîné dans les années 70 la chute de Willy Brandt.
Vous savez qui je suis?
Colonel Kleb, chef opérationnel pour le SMERSH. Je vous ai vu à Moscou quand je travaillais sur le chiffre anglais.
Au consulat, personne n'a su que vous veniez ici?
Non, le message disait que...
Oui, je sais, il venait de moi. Ôtez votre veste. Souvenez-vous? Quelle fille ravissante. Asseyez-vous. Je lis que vous avez fait un peu de danse. Et là, je vois que vous avez eu 3 amants.
J'étais très amoureuse.
Et si vous n'étiez pas amoureuse?
Je suppose que ça peut dépendre. Et de l'homme?
C'est une réponse sensée. Cet homme, par exemple.
Je n'en sais rien. C'est possible s'il se montre gentil et qu'il tourne.
Caporal, je vous ai choisi pour une mission des plus importantes. Il s'agit de communiquer de faux renseignements à l'ennemi. Si vous l'accomplissez avec succès, vous monterez vite en grade. Dès maintenant, vous devrez faire tout ce qu'il ordonnera.
Et si je refuse?
Alors vous ne sortirez pas de cette pièce vivante.
Je vais obéir à vos ordres.
Bon, il y a là vos instructions. Vous me ferez votre rapport.
Oui.
Allons, venez, ma chère. Vous avez beaucoup de chance d'avoir été choisi pour une mission si simple et si agréable. C'est une sorte de travail amoureux.
Il y a également des figures féminines qui se dégagent dans cette période de la guerre froide. Claude Moniquet, et en particulier celle de Gaby Gast.
Absolument. En fait, Gaby Gast illustre en partie cette affaire, ces réseaux de secrétaires, cette manipulation affective dans laquelle les hommes de Marcus Wolf excellaient. Gaby Gast est une étudiante en sciences politiques et elle va être recrutée dans les années 60 par un homme qui s'appelle Karl-Heinz Schneider, dont le nom de code est Karliczek, qui est un agent de Marcus Wolf. Et Schneider va manipuler Gaby Gast, va l'implanter en Allemagne de l'Ouest, va en faire une femme qui va rendre de grands services au HVA, au service spécial de Marcus Wolf, et qui, pour finir, va être découverte, va être arrêtée, et est toujours en prison. Si elle n'est pas en prison, elle a été libérée très très récemment. Elle avait été condamnée à une lourde peine. Marcus Wolf dit dans ses mémoires que le sort de Gaby Gast et l'arrestation de Gaby Gast est une des choses qui lui pèse le plus sur le cœur, parce qu'il a le sentiment de l'avoir utilisé, de l'avoir manipulé. Et c'est d'autant plus vrai que Karliczek, l'homme qui a poussé Gaby Gast dans le chemin de l'espionnage en usant de la séduction, de la relation amoureuse, etc., alors qu'elle était en prison, lui s'est refait sa vie en Allemagne de l'Est à l'époque avec une autre femme. Donc Gast est vraiment une de ces laissés-pour-compte de la guerre secrète. La guerre secrète, c'est une guerre. C'est une guerre avec tout ce que ça veut dire, avec parfois des morts, mais beaucoup plus souvent que des morts, des gens délaissés pour compte, des gens tristes, déçus, abusés, trompés, qui ont parfois beaucoup de mal ou qui parfois ne se remettent jamais de ce qui leur est arrivé. La guerre secrète est une guerre cruelle et Gaby Gast est un peu exemplaire des victimes qu'elle peut faire.
Alors qu'est-ce qu'on peut mettre à son actif, Claude Moniquet?
Mais en fait, Gaby Gast va être infiltré en Allemagne de l'Ouest au début des années 70. Sa mission première est d'approcher un universitaire ouest-allemand, le docteur Lehnfelder, qui est lui-même un analyste important auprès des services secrets ouest-allemands, le BND, elle va l'approcher, elle l'approcher de tellement près qu'elle va d'ailleurs l'épouser, et elle va, grâce à lui, être à même d'être recrutée au BND, où ses dons linguistiques et ses dons d'analyse, n'oublions pas qu'elle a fait les Sciences Po, ses dons d'analyse vont lui permettre de devenir l'analyste principal des renseignements qui parviennent à la centrale ouest-allemande de Pulak, en provenance d'Allemagne de l'Est et du bloc oriental. Donc ça veut dire que la personne qui était chargée d'informer le monde politique ouest-allemand, l'armée ouest-allemande, le chancelier ouest-allemand sur l'Allemagne de l'Est, était un agent soviétique, un agent de l'Est. Et donc elle va être à même, à partir de ses analyses, qu'elle retransmet bien entendu à ses officiers traitants est-allemands, elle va être à même de permettre au service de Marcus Wolf d'identifier les brèches, d'identifier les informateurs des services secrets ouest-allemands à l'Est et de colmater les brèches. Colmater les brèches techniquement pendant la guerre froide dans l'Allemagne de l'Est, ça veut dire tuer des gens.
Est-ce que sa position lui permettait de faire de la manipulation, de l'intox ou de la désinformation ?
Certainement. Alors là, comme Marcus, on en est réduit aux supputations à nouveau, parce qu'il n'existe pas d'archives sur le travail des services secrets est-allemands. Elles ont été, quelques jours avant la chute du mur de Berlin, elles ont été emmenées en camion à Moscou. Et ces archives sont quelque part dans les archives des successeurs du KGB, au SVR probablement aujourd'hui, à Moscou. Ce qui, par parenthèse, permet aux soviétiques, enfin aux russes aujourd'hui, de disposer de moyens de pression énormes sur toutes les ex-taupes soviétiques qui sont encore en vie, voire en activité, en Allemagne de l'Ouest. Il suffit d'aller les voir en disant, mes camarades, moi j'ai un dossier qui permettrait de rappeler qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, vous avez travaillé pour le HVA de Marcus Wolf. Si maintenant vous ne travaillez pas pour moi, agent russe, ben vous allez avoir des problèmes parce que je vais l'envoyer par la poste au contre-espionnage ouest-allemand. Donc ces archives n'existent plus. On en est réduit au témoignage des acteurs. Les acteurs, par définition, apporte un témoignage qui leur est favorable. C'est le cas de Marcus Wolf, entre autres. Marcus Wolf a minimisé le rôle joué par Gabi Gast, donc on ne sait pas exactement ce qu'elle a pu amener à l'Allemagne de l'Est, mais il est probable qu'elle servait que plus qu'à influencer, qu'à désinformer, elle servait réellement à identifier les sources de renseignements en Allemagne de l'Est et à colmater les brèches. Ce n'est pas d'ailleurs un cas unique, puisque dans la guerre froide, il y a un autre cas célébrissime, qui est celui de Kim Philby. Kim Philby était l'homme qui, dans les services secrets anglais, était chargé de la division soviétique et du contre-espionnage contre les soviétiques, et qui était un agent soviétique. Et 30 ans plus tard, Aldrich Helms de la CIA sera l'homme qui dirigeait la section soviétique de la CIA, et il était un agent soviétique. Donc, il y a malgré tout, à la fois, il est clair que ce secteur du contre-espionnage était pour les Russes, pour les soviétiques, un axe de travail principal, puisqu'il permettait à la fois d'infiltrer les services adverses, mais aussi de savoir ce que les services adverses savent sur vous et d'identifier ceux dans votre camp qui sont des traîtres. Mais ça plaide aussi pour leur professionnalisme. Il y a peu de services qui ont eu autant de succès, certainement dans l'histoire, que les services soviétiques, au sens large, donc y compris les services est-allemands, en ont eu pendant les 40 années de la guerre froide.
Les aventures de l'espionnage. Avec Genoveva Etienne et Claude Moniquet, co-auteurs de l'histoire de l'espionnage mondial aux éditions du Félin. Extrait de Mademoiselle Docteur de Pabst et de Bon baiser de Russie, James Bond 007. Document INA, Martine Auger. Le cabinet de curiosité, Bernard Charron, Cécile Gissot, Vincent Deck, Jacques Munier.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 décembre 1997 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.